Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Foot que nous pourrions renommer Radio eFoot International ce mardi. eFoot, eSport, une petite lettre en minuscule mais un bouleversement majuscule pour le monde du ballon. Et si l'avenir du football était davantage une affaire de manettes, de croix, de carrés, de PlayStation, de Twitch plutôt qu'une affaire de crampons, de shorts, de maillots ou de terrain? Et si le jeu vidéo était l'avenir du jeu tout court? Récemment, nous avons pu goûter les nouvelles fournées FIFA et Pro Evolution Soccer, les deux grandes franchises qui enflamment vos consoles depuis plusieurs années. Et justement, un as de la manette, youtubeur FIFA et même champion du monde des youtubeurs FIFA en 2018, alors que les bleus, les vrais si je puis dire, soulevaient le trophée en Russie, est avec nous. Bonjour AF5.
Bonjour, comment ça va?
Alors AF5, ça va très bien. Et vous, AF5, c'est pas tout à fait votre nom. Vous êtes Arsène. Moderne, mais pas à ce point-là. Arsène Froun, vous travaillez aujourd'hui pour le PSG, présentateur de la chaîne Twitch du club parisien et ambassadeur de sa section e-sport. C'est tout bon?
Exactement, c'est parfait pour l'instant.
Et quand on tape votre nom sur internet, on voit des photos ou des vidéos de vous à côté de Mbappé, de Messi, de Cavani, de Samuel Eto'o même.
Elle est belle
votre vie.
C'est un travail qui est forcément plaisant, envié par beaucoup de jeunes. Parce que voilà, je suis en contact avec beaucoup de joueurs de foot à chaque fois. Je fais beaucoup de contenu avec eux, plus sur les jeux vidéo. Donc forcément, c'est la belle vie. Après, il y a beaucoup de travail avant. Pour en arriver là, on est très peu également à être dans ce domaine.
Bon, vous êtes un chanceux et nous sommes chanceux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous parlerons FIFA, mais pas que, avec vous tout à l'heure. Vous avez de la chance, vous aussi, vous êtes entouré par de grands gamers devant l'éternel Hervé Penaud, qu'on a appelé la terreur du baby-foot au bistrot
c'est vrai.
Dans ses jeunes années.
Et bonjour déjà.
Avant d'être la terreur
vrai,
du bistrot,
c'est
tout
exact.
Court.
C'est exact, j'étais pas mal au baby-foot. J'ai vu que j'ai beaucoup perdu quand j'ai joué dernièrement. Et j'étais pas mal au flipper aussi.
Champion du monde aussi?
Non, peut-être pas champion du monde.
Champion de ma rue.
Je me suis arrêté pour le game. Après, j'ai arrêté. Hein. Game avec les manettes, c'est pas trop mon truc.
Alors, un autre de nos consultants est un peu plus vintage. Il est plutôt foot anglais et course à pied dans le grand parc d'une ville de la région parisienne. Bruno Constant, bonjour.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
En revanche, Arsène, vous trouverez peut-être un alliant, la personne de Nabil Djellit. Non, c'est moyen.
Salut,
bonjour Nabil.
Si, j'ai un petit peu taquiné la manette à une époque, mais bon, ça devait être pour toi la proto-histoire ou la préhistoire. Bon, moi, j'ai joué à ISS.
Le Subutéo, ça ne compte pas. Hein. Vous savez, les petites figurines.
Ah, Subutéo, bien sûr, j'ai connu ça. Moi, je préférais le tip kick.
Yes. Mais attendez, je vais vous raconter une anecdote. J'ai quand même rencontré l'inventeur de ISS. En Sardaigne, enfin une longue histoire et tout. J'avais fait 2-3 blagues d'ailleurs.
Effectivement, dit comme ça, c'est intrigant. Ah, on a hâte d'être à.
Le seul problème, c'est qu'il
n'avait
pas compris ces blagues, paraît-il. Enfin bon, c'est peut-être en marrant d'Italie.
C'est une légende, enfin le gars, enfin, au passage.
Voilà, donc vous êtes vraiment avec 3 légendes du jeu vidéo, Arsène. Rassurez-vous, messieurs les habitués, pour ne pas dire les boomers, hein, comme on dit, une actualité plus classique va aussi alimenter nos débats aujourd'hui. Éliminatoire de la Coupe du Monde en Afrique, le vague à l'âme de Neymar et le rachat spectaculaire mais néanmoins polémique de Newcastle en Angleterre. Radio Foot, merci aux équipes, merci au boss final David Finzel et à Laurent Salerno qui est notre Super Mario.
Frapper, c'est repousser des deux points à la tête derrière. Il aura fallu une phase arrêtée pour voir le Cameroun respirer. 1-0. La première possibilité pour la Côte d'Ivoire qui fait mouche pour les éléphants face au Malawi grâce à Nicolas Pépé.
Et voilà, les étalons qui l'emportent 2-0. Deux buts inscrits par le capitaine Youssoufou Dayo et Abdou Fessal Tabsoma.
Afrique Express, les éliminatoires du mondial sur le continent suite de la 4e journée. Un très bon lundi pour les francophones et donc par ricochet pour RFI. On va commencer par les Ivoiriens. Hervé Penaud, ça vous intéresse particulièrement.
Mais absolument.
Deuxième match, deuxième victoire pour la Côte d'Ivoire contre le Malawi. 2-1, des buts signés Nicolas Pépé, Franck Kessier. Après un succès 3-0 contre ce même Malawi quelques jours plus tôt. Au niveau de la comptabilité, c'est tout bon. Mais le foot, ce n'est pas que de la comptabilité. C'est ce que nous dit Patrice Baumel, le sélectionneur des éléphants.
mathématiquement très satisfait. On s'était fixé l'objectif de revenir avec 6 points de ce stage, c'est chose faite, de garder le leadership de ce groupe. Après, un sentiment mitigé, un sentiment de maîtrise par moment, où on a les intentions, on a le ballon, et par moment, un peu de fébrilité, un peu d'énervement, un peu de manque de concentration. Ce sont ces genres d'équipes qui sont difficiles à jouer, qu'il faut savoir gagner. On reste sur 3 victoires d'affilée, que continuer notre marche en avant. Il ne faut pas s'endormir. Lorsqu'on est tous ensemble, on est une équipe redoutable et séduisante. Lorsque on est un peu moins bien, on redevient une équipe moyenne. Donc à moi de trouver les solutions pour qu'on soit le plus souvent très costaud.
Pas exactement convaincu, pas tout à fait convaincu par les performances de ces hommes, Patrice Baumel.
Bah, y a de quoi, parce que c'est vrai que le match a été très difficile. Alors c'est, pour les Ivoiriens, c'est très compliqué. Parce qu'ils sont obligés d'avoir un groupe de 30 joueurs. Et puis ils ont puisé dans des joueurs pour le premier match, dans d'autres pour le deuxième. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de continuité, hein, puisque certains joueurs n'avaient pas le droit de revenir en Angleterre sans faire une dizaine de jours, soit 5 pour les vaccinés totaux, soit 5 pour ceux qui n'étaient pas complètement... le contraire, soit 5 pour ceux qui étaient totalement vaccinés et 10 pour les autres. Et il y en a certains en Angleterre qui ne sont pas vaccinés dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc il a fallu modifier tout ça. Les cadres sur lesquels on pouvait compter, bah, ils n'ont pas nécessairement répondu présent. Je pense par exemple à Serge Aurier qui était en grosse difficulté. Il manque de rythme, hein, c'est tout simplement. Lui,
il a à peine de retrouver un club.
Absolument. Et puis, il manque de rythme, donc il était d'ailleurs changé à la mi-temps. Et Zaha, c'est pas d'aujourd'hui. Lui aussi, j'ai trouvé en grosse difficulté. On attend de ce type de joueurs de faire des différences et ils ont été malmenés, vraiment malmenés. Ils s'en sortent bien. Alors, c'est vrai qu'ils méritaient de gagner, hein, mais il va falloir faire attention, il va falloir resserrer les boulons. Mais c'est pas simple non plus pour le Cameroun, on va en parler après.
Exactement.
Donc, d'une certaine manière, ils ont montré au moins autant que le Cameroun, ça j'en suis persuadé. Et puis, point positif pour moi, pour la Côte d'Ivoire, c'est le retour de Gervinho. Parce que j'ai trouvé que Gervinho avait fait déjà une bonne entrée la dernière fois sur le match aller. Et là, sur les 60 minutes, ça a été un peu le joueur le plus fort offensivement de l'équipe, même meilleur que Pépé qui a marqué. C'est lui qui provoque le pénalty. Et puis, il a cette capacité d'élimination de dribble. Et sur les terrains africains, c'est quelqu'un qui fait toujours des différences.
C'est vrai que j'aurais pu préciser que la Côte d'Ivoire est dans le groupe du Cameroun, vraiment le groupe peut-être le plus intéressant de ces éliminatoires de Coupe du Monde. Et pour l'instant, la Côte d'Ivoire est en tête, un point devant le Cameroun. Un autre avis sur la performance de la Côte d'Ivoire, Bruno?
Non, moi, Gervinho, ça prouve qu'il faut garder les anciens, qu'on les écarte peut-être un peu trop facilement du fait de leur âge, et qu'en fait, quand les cadres, ou supposés cadres, doivent porter l'équipe, bah, finalement, quand ils ne sont pas là, c'est surtout les anciens qui le font. Et on voit, je pense à Gervinho, mais je pense à Thiago Silva au Brésil, je pense à tous ces joueurs qui sont un peu anciens et qui sont des monuments de leur sélection.
Vous pensez à Olivier Giroud également? Non, pas vraiment.
Okay. À demi-mot.
Nicolas Pépé, parce qu'on a parlé de Gervinho, mais Nicolas Pépé a marqué, c'est pas exactement son début de saison le plus réussi dans sa carrière.
Il était bien aidé,
carrière,
sur l'action. Oui.
Effectivement, mais en Angleterre, là, il n'a marqué qu'un but en coupe. En première ligue, c'est pas un excellent début de saison, peut-être que ça va un peu le...
C'est pas un excellent début de saison, c'est pas surtout un excellent passage sous le maillot d'Arsenal, parce qu'aujourd'hui il est sur le banc, il s'est fait piquer la place par un gamin de 21 ans qui s'appelle Bukayo Saka, qui est nettement meilleur que lui. Et le pauvre, je sais pas s'il arrive pas à se remettre de son énorme transfert, 80 millions d'euros en
16 buts quand même l'an passé, en plein marasme.
Ouais, mais des buts surtout dans les compétitions de coupe nationale. Et c'est compliqué pour lui. Voilà, c'est compliqué pour lui, Arsenal, depuis le début.
C'est un joueur qui doit, à terme, s'il ne s'impose pas clairement cette saison, c'est un joueur qui doit se poser des questions par rapport à son avenir en club. Est-ce qu'il ne faut pas rebondir ailleurs, être prêté, se relancer? Pour l'instant, même si effectivement, vous parlez de statistiques, mais on a l'impression que c'est quand même des statistiques en trompe-l'œil.
Ouais, complètement.
Pour le coup, on est loin du Nicolas Pépé de Lille, qui était assez
et même
déroutant.
Même en équipe nationale, hein, parce que je pense qu'on doit l'attendre à un meilleur niveau que ça. Hein, ouais. C'est quand même un joueur qui est considéré comme un des gros joueurs ivoiriens. Hein, on parlait du transfert. C'est pas rien quand vous allez à Arsenal et que vous valez autant d'argent. Et c'est vrai que pour l'instant, je trouve qu'il n'a pas endossé le costume de je dis pas de sauveur, hein, mais en
de
tout cas
d'attaque,
de leader d'attaque. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est marrant de voir Gervinho revenir et tout de suite être là. Celui qui l'a endossé et qui n'était pas là malheureusement sur ce match-là pour des raisons familiales, hein, puisqu'il vient d'avoir un enfant, c'est Sébastien Haller. Effectivement, Sébastien Haller est arrivé en équipe nationale et d'un seul coup, on a vu l'impact qu'il pouvait avoir. Ça n'a pas été le cas de Pépé, qui pour moi n'est pas nécessairement d'ailleurs un titulaire indiscutable aujourd'hui, une fois qu'Haller va revenir, si vous êtes en concurrence par exemple avec Gervinho.
La Côte d'Ivoire, donc, en tête de son groupe, devant le Cameroun, les Lions indomptables qui ont été reçus 2-2 contre le Mozambique, victoire 1-0 hier, Ngadju, cadre de l'équipe championne d'Afrique en 2017, donc je ne devrais pas écorcher son nom à débloquer la rencontre en seconde période. Trois jours à peine après le succès 3-1 à Douala contre toujours le Mozambique. Périple pour Tony Conceição et ses joueurs. Hein. Trois jours, il faut passer de l'Afrique du Sud, je crois, où avait lieu le...
Et puis la manière dont ça s'est passé.
De Douala, pardon, ça, ouais. À l'endroit où avait lieu le match retour contre le Mozambique. On va l'écouter, Tony Conceição.
J'ai un sentiment mitigé, content du résultat, mais on n'a pas eu le temps de récupérer entre les deux matchs. C'était inhumain de jouer dans ces conditions. Notre devoir, c'était de gagner, de prendre des risques, de prendre le jeu à notre compte. Il y avait beaucoup de vent, ce qui nous a gênés, et les Mozambicains essayaient de nous prendre en contre. On y a mis beaucoup de cœur. Je ne pouvais pas en demander plus à mes joueurs. Le plus important, c'est qu'on ait pris 6 points sur 6 et que mes hommes aient joué avec fierté pour leur pays.
Il a dit que c'était inhumain de jouer dans ces conditions. Vous parlez des conditions,
oui,
du transit des Camerounais.
Voilà, exactement. En gros, il y avait un avion qui a été affrété, qui devait être affrété pour le samedi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'ils avaient joué contre le Mozambique déjà ensemble, hein, le premier match, que les autres sont partis dans la foulée. Hein, pour rejoindre le Maroc. Et là, vous avez l'équipe camerounaise qui a tourné son avion le samedi, puis le dimanche, puis finalement, on ne sait pas exactement, il y a eu des problèmes de Covid, sur soi-disant, enfin bon, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Toujours est-il que la certitude, c'est qu'ils sont arrivés à 3h du matin le jour du match, le match avait lieu l'après-midi, qu'arrivé à l'aéroport, il a fallu faire des tests Covid, et puis imaginez dans quel état vous pouvez jouer. Alors ça peut expliquer aussi leur performance, qui n'était même pas en demi-teinte. Moi, je les ai trouvés. Ah, je ne vais pas dire catastrophique, mais très mauvais. C'est un miracle. Cette victoire, c'est un miracle. Oui, c'est une erreur du gardien.
Une erreur d'appréciation du gardien, un but sur coup de pied arrêté. T'as raison, Hervé. Dans le jeu, de toute façon, ils pouvaient jouer pendant trois jours, ils n'allaient pas marquer.
Mais ce genre de match, vous les gagnez, vous ne les jouez pas pour la beauté du geste.
Il y a deux choses à souligner dans cette
histoire. Oui, bien
histoire.
Sûr.
Exactement,
bah,
c'est pas exactement non, mais il y a deux choses à le souligner. But de se rassurer sur le combat.
C'est vrai, mais je suis d'accord, mais bon, c'est quand même une équipe qui doit progresser collectivement parce qu'il va y avoir un match. Vous parliez de boss final tout à l'heure pour David Finzen, il va y avoir un affrontement final contre la Côte d'Ivoire. Et là,
exactement,
ça va être un barrage avant le barrage.
Et Nabil, attention au déplacement au Malawi, c'est pas gagné pour les Camerounais. Et attention, parce que s'ils perdent là-bas et que la Côte d'Ivoire gagne son prochain match, ils sont qualifiés. Ouais. Donc, il faut, pour que le dernier match ait de l'importance, il faut au moins un match nul. Et c'est une équipe en face qui est capable de les ennuyer.
Ce que je voulais dire en termes d'image, c'est quand même gênant. Vous organisez la CAN, vous n'êtes pas capable d'affréter un avion à votre sélection nationale. Non, alors, je veux dire, vous rassurez personne.
C'était pas un vol intérieur, hein, c'était pour aller de Douala au Maroc où avait lieu le match officiellement accueilli par le Mozambique.
On peut être sûr que ça n'arrivera pas avec Samuel Eto'o, par exemple, ce genre d'incident.
Ah, mais ce murmure qu'il aurait aidé aux entrées dans une zone
on va éviter de s'aventurer.
Mais il se murmure qu'il aurait
notre invité connaît très bien Samuel Eto'o, donc attention.
Il se murmure qu'il aurait aidé peut-être même au déplacement. Je ne sais pas si c'est vrai ou on lui prête ça parce que comme il est en course pour la.
Il y a des histoires comme ça un peu. Je me souviens le Gabon avec Aubameyang aussi qui avait eu un problème comme ça. Il a dû attendre très longtemps toute l'équipe du Gabon.
C'est un problème de test Covid. C'était lors d'une des journées précédentes, effectivement, sur des tests Covid. Ils avaient eu des petits soucis aussi, parce qu'ils n'avaient pas, soi-disant, les bons documents.
Il n'y a pas ça dans le jeu vidéo, il n'y a pas de problème
d'avis. Ah non, alors ça, jeu vidéo.
Ça plane, hein.
Tu joues. Même si le joueur est blessé dans la vraie vie, tu joues avec lui, tu vas être
intrigué. Vous faites quand même de longs déplaçements, puisque votre titre de champion du monde des youtubeurs FIFA, vous l'avez obtenu
à Los Angeles.
Ah, d'accord. Il faut quand même prendre l'avion, il faut quand même se déplacer sur des tournois. Mais oui, l'e-sport est un.
Je savais pas ça.
Et peut-être un sport comme les autres, avec aussi ses contraintes logistiques et ses déplacements.
Diminué un petit peu avec le Covid, malheureusement, mais forcément à l'époque c'était beaucoup plus à l'étranger.
Ouais. Bon, on est seulement sur son canapé.
Je vais peut-être m'y mettre, ça va dépendre. Mais moi j'ai hâte qu'il y ait une compétition à Douala.
On enchaîne rapidement quelques autres résultats. La première victoire du Gabon dans ses éliminatoires du Mondial 2-0 contre l'Angola avec un premier but signé Aubameyang qui va à peine mieux que Nicolas Pepe sous le maillot d'Arsenal. Il était temps cette victoire pour les Gabonais, 3e à 6 points du leader l'Égypte. Ça va être compliqué quand même pour la bande à Patrice Neveu. Ouais. Et puis, une dernière info, hein, pour suivre évidemment ces éliminatoires de la Coupe du Monde et même l'actualité du football africain en général, une seule adresse sur les internets, africfoot.rfi.fr. Que se passe-t-il, Hervé Penaud ?
Puis quand même dire qu'au moins, il y a un qualifié. C'est le Sénégal.
C'est le Sénégal qui,
a fait du 4 sur 4. Ils sont qualifiés. Ils n'ont pas fait un immense match non plus, mais un triplé.
Ils ont fait le boulot.
Voilà. Maintenant, ils sont qualifiés pour le prochain tour parce que c'est quand même les éliminatoires les plus compliqués qui est. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 10 groupes, 10 premiers, et après, il y aura des allers-retours entre les vainqueurs de groupe. là, ça va être du costaud. Ouais. Alors, après, il faut tomber sur l'adversaire. Enfin, il y aura que des gros.
Après, il y a des têtes de série. Selon le classement FIFA, les 5 premiers vont recevoir au retour.
Logiquement.
Donc, bon, par exemple, pour faire rapidement, si le Maroc se qualifie, ce qui va être certainement le cas, ils ne pourront pas jouer contre le Sénégal parce qu'ils vont être protégés parce qu'ils font partie des 5 meilleures nations au classement FIFA du côté africain. Donc, on privilégie quand même les plus gros. Enfin, même si le classement FIFA parfois peut être trompeur.
Ah, très trompeur.
Mais il y a des tendances lourdes quand même qui sont respectées.
Parce que t'as la Tunisie dans les 5 premiers.
La Tunisie, sont des finalistes. Ils sont toujours à la canne,
ils sont toujours à la canne.
Vous projetez un tout petit peu loin, messieurs. On était juste
sur le résultat du
Lazio. On était simplement sur le résultat du Lazio.
Vous êtes déjà
sur le barrage.
La force de cette émission, c'est de voir les
choses en avance. Tout ça parce qu'ils sont embêtés par le sujet jeux vidéo. Ils font tout pour gagner du temps. Ils inventent des débats.
Ça, certainement pas. Moi, j'ai hâte d'entendre.
Qui n'existent pas. Allez, on passe à Neymar.
Porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade que sem ela não há paz. Não.
Cara, eu acho que é a minha última Copa do Mundo. Eu encaro como a minha última. Porque...
Je pense que la Coupe du Monde 2022 sera ma dernière.
Je
la vois comme la dernière. Parce que je ne sais pas si je serai assez fort mentalement. Pour continuer à gérer ma vie de footballeur par la suite. Donc je vais tout donner pour bien finir et la gagner avec le Brésil. Parce que c'est mon plus grand rêve depuis que je suis tout petit. Vous savez, j'espère vraiment, vraiment qu'il va se réaliser.
Il y a des longues attentes.
La saudade de Neymar, mais que personne n'écoute, puisque vous discutez, vous êtes dissipé autour de cette table. Neymar, joueur déconcertant, et pas seulement par son talent balle au pied, sa capacité à dribbler n'importe quel défenseur. C'est aussi une personnalité parfois difficile à cerner, un goût pour la fête, une hygiène de vie pour le moins douteuse, des problèmes de poids, des déclarations qui font beaucoup parler. Alors vous êtes, Arsène, un salarié du PSG, donc vous pouvez garder votre droit de réserve sur ce sujet.
Tout ce qu'il nous a dit sur Neymar, je ne connais pas.
On vous mettra pas en difficulté, on vous demandera pas si vous jouez à 4h du matin avec lui sur Twitch, puisqu'on sait tous qu'il est connecté à 4h du matin.
Il aime bien les jeux vidéo également, Twitch, ouais. Neymar, et pourquoi pas une idée de reconversion pour lui, elle pourrait arriver plus vite que prévu, cette reconversion, puisqu'il sait, on l'a entendu récemment confié à une plateforme de streaming DAZN, pour s'épancher, partager ses doutes, son envie de quitter le monde du football dès l'année prochaine. Est-ce que vous y croyez, Bruno Constant? C'est quand même un coup de tonnerre.
Ouais, je sais pas quoi en penser parce que Neymar, il est assez déroutant quand même hein, depuis le début de sa carrière, même si sa première partie de carrière était extraordinaire. La deuxième, elle fait un peu plus penser à la deuxième partie de carrière de Ronaldinho, où c'était parti en vrille complètement, où il s'était laissé aller, où il était plus un joueur de foot. Il allait de club en club. Et c'est un peu le problème de certains joueurs brésiliens qui se laissent aller un peu à la vie nocturne et tout ce qui l'accompagne. Moi, j'ai envie de croire qu'il aime trop le football pour le quitter comme ça. Après sur sa sélection sur le Brésil, j'ai regardé Colombie-Brésil et quand je vois le niveau de cette équipe brésilienne, je mets un peu à sa place, il la porte un peu toute seule quoi cette équipe. Parce que la plupart des joueurs qui l'entourent, c'est des joueurs qui jouent. Ils sont à Everton, ils sont à Lyon, ils sont remplaçants à Manchester City. Fred, qui est à Manchester United, qui pour moi, c'est pas le standing du Brésil qu'on a l'habitude de voir en sélection, en fait.
Oui, mais là, on a l'impression que son spleen dépasse largement le cadre de la sélection.
Je pense que c'est un ensemble. C'est un ensemble parce qu'à la sélection, il porte toute la pression depuis qu'il a 17-18 ans.
Tu as raison.
Oui.
Franchement, c'est bien plus important que la pression qu'il a en Europe.
C'est vrai qu'on va parler du monde, entre guillemets, virtuel. En tout cas, on parle de nouveaux médias et quelque part, on l'a souvent vu comme la première star YouTube du football Neymar. C'est quelqu'un qui a été médiatisé, starifié, marketé quelque part extrêmement tôt avec une pression qui allait au-delà du terrain très forte sur ses épaules.
Oui, mais tout à fait. Et moi, j'ai toujours considéré que c'était un enfant. Moi, j'ai toujours vu comme un enfant. Donc, en fait, là, il a une réaction. Il ressent ça aujourd'hui. Peut-être qu'il ressentira autre chose dans 6 mois.
Mais parce que sa manière.
Ah oui,
ce qui est pas déplaisant.
Oui, moi, je pense que c'est quelqu'un de très sincère. Après, il a du mal à se canaliser sur le football pur. Bah oui, parce que c'est un personnage. Un peu à part, hein. Et puis comme je disais, pour moi c'est un enfant, donc il a envie de s'amuser, prendre du bon temps. Alors c'est vrai que la pression au Brésil sur ses épaules est absolument incroyable. Énorme. On ne se rend même pas compte énorme. Ce qu'il vit. C'est énormissime. Donc au bout d'un moment, vous avez le droit d'avoir des petits coups de blues. Hein, ça peut arriver. Hein.
Alors, on rappelle que sa pression sous le maillot du PSG dans le cadre du foot européen, elle est pas mal non plus. C'est toujours le joueur le plus cher de l'histoire. Il est très bien payé au PSG. Il a re-signé récemment. Donc certains se demandent comment il peut partager ses doutes malgré les chiffres auxquels il est associé. Et d'autres disent et comparent son cas à celui, par exemple, de Naomi Osaka en tennis ou de Simon Biles, la star de la gymnastique américaine, des stars qui ont confié leurs doutes malgré leur statut de vedette.
Chaque cas est différent quand même.
Non, même si les cas sont différents, cette problématique.
Mais la pression est dure.
Non, mais c'est vrai que la pression mentale.
Les difficultés psychologiques des athlètes de haut niveau, elle émerge aussi au premier plan.
On a peut-être tendance à sous-évaluer, sous-estimer la pression psychologique et mentale. Et depuis que Osaka l'a partagée, et d'ailleurs, quand elle a partagé, ça choquait tellement de monde que c'était presque incompréhensible que les sportifs de haut niveau ont aussi le droit de souffrir, d'être pas bien, d'être mal. Et voilà, on peut aussi comprendre ça de Neymar, qui est quelqu'un d'hypersensible. On le voit dans son jeu, dans ses réactions quand il est touché, quand il y a une faute sur lui, parfois pas des grosses fautes. Sa réaction, elle est épidermique. Il se passe quelque chose. Donc c'est peut-être le fait d'un le produit d'un le fruit d'un ras-le-bol général, peut-être.
Mais il s'appartient
plus. Et on peut aussi
surtout
lui concéder ça. Hein.
Il s'appartient plus. Il est épié pour la moindre chose. Ouais. On a des vies normales ici autour du.
Enfin, vous.
Non,
moi,
mais normal. C'est vrai, vous. Normal globalement, je veux dire. Mais comment on serait si on pouvait pas sortir dehors, enfin sans provoquer
des meutes, sans.
Non, mais de faire des choses simples de la vie, c'est plus possible pour lui et ça ne sera peut-être plus jamais. Il ne s'appartient plus. Il est épié pour le moindre truc. Là, j'ai vu qu'il y avait une polémique au Brésil. Et t'as raison, Bruno. Il a enlevé son masque pour faire une photo avec un gamin. Ça a fait une polémique nationale. En période de Covid, non mais vous imaginez le truc. Vous êtes chez vous tranquillement, vous mangez un dessert, vous regardez un match et puis tiens, il y a une alerte qui tombe sur votre portable. Ah bah t'es mêlé à une polémique parce que t'as enlevé ton masque. Non mais sérieux, il y a un moment c'est un humain, c'est une matière fragile.
Tout le monde ne peut pas assumer ça. Hein. C'est très compliqué. Et lui, moi je pense que comme il n'a pas tellement de filtres, c'est quelqu'un qui est sans filtre. Et ben c'est peut-être plus compliqué à certaines périodes de l'assumer. À côté de ça, il doit profiter aussi du fait d'être célèbre parce que ça aide aussi sur pas mal de points.
C'est pareil, c'est une balance. Hein. Ce qu'il faut dire aux gens, ce qui est important, et sans être taxé de démagogie ni de populisme, l'argent ne fait pas le bonheur. Tu peux être archi-millionnaire et avoir de la mélancolie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas entendre ce discours. Ah, mais de quoi il se plaint, il gagne 40 millions. Mais la vie, ça marche pas comme ça.
Non, mais tu as tout à fait
raison. Ça marche pas comme ça.
Et il a le droit de plus avoir envie de jouer au foot aussi. C'est pas parce que c'est son métier, sa passion, que c'est l'un des meilleurs au monde qui doit continuer jusqu'à 34 ans. Il y a un des plus bels exemples pour moi, c'est Michel Platini. Il a arrêté très tôt sa carrière. Il a arrêté à 31 ans. Il avait commencé à 17, 18 ans au très haut niveau.
Bruno, c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites que c'est l'un des joueurs les plus talentueux. C'est aussi l'un des plus connus. C'est quelque part un ambassadeur du football. C'est une figure de proue du monde du football. Est-ce que ça pousse pas ce monde un peu fou du foot business qu'incarne aussi Neymar à travers le prix de son transfert, notamment, se repenser, à peut-être arrêter cette folie des grandeurs qui, en fait, fait souffrir ses propres
monde. Oui, mais lui n'a pas l'obligation de porter la responsabilité de tout ça.
Ouais. C'est pas lui, je porte une réflexion globale. Si l'un des principaux ambassadeurs de ce sport nous décrit ce milieu comme étant un peu pourri, hein, je caricature, c'est quand même un.
Non, mais lui, c'est pas ça qu'il décrit.
Alerte.
Parce que lui, à l'arrière, le football, je pense que c'est un amoureux du foot.
Non, pas le sport, mais on sent que c'est tout ce qui va autour.
Mais tout ce qui va autour, malheureusement, c'est peut-être nous qui l'expliquons pas assez, hein, d'une certaine manière. C'est que le sport de haut niveau, c'est très, très, très dur. Alors, c'est vrai qu'on voit tous les à côté, c'est magnifique, tout ce que vous voulez. Mais ce que vit, par exemple, un Kylian Mbappé aujourd'hui, c'est pas simple. En plus, lui, personnage un peu atypique, hein, intellectuellement.
Surdoué,
un type qui a pas les mêmes réactions que vous et moi. Et d'un côté, il est jugé sur chaque match, il est jugé sur chaque réflexion, sur chaque phrase. Donc à un moment, c'est compliqué, c'est pas simple à vivre. Et être capable de le vivre, de bien le vivre, et en plus de progresser, comme Ronaldo, comme Messi, des gens comme ça. C'est pour ça que vous êtes des champions hors normes. Mike Tyson, on a souvent parlé de la difficulté à vivre ce statut d'icône quasiment. Et Tyson Fury, il a lui des problèmes psychologiques personnels énormes. C'est pas parce qu'il est champion du monde qu'à côté de ça, il a pas du mal à se lever le matin de son lit. Donc
c'est un mental incroyable à chaque fois.
Un mental hors normes.
Arsène Froun, l'avantage de leurs avatars sur jeux vidéo, les Neymar, Mbappé, c'est que le doute psychologique, il est pas vraiment pris en compte par les FIFA, PES et autres jeux vidéo.
Il y a une note de mental, mais
bien évidemment, c'est pas pris en compte là-dessus.
Ouais, donc c'est l'avantage ouais. pour eux d'avoir
qu'est-ce
cette,
qui fait la différence
cette existence coup, aussi numérique pour ces joueurs. Parce que, petite parenthèse, parfois ça se mêle un petit peu. Ils sont très sensibles à leur note FIFA et oui. ils aiment bien ouais, jouer ouais, avec ouais, eux-mêmes.
Je me souviens, pour la petite histoire, il y avait un joueur qui était le plus lent de FIFA. Il avait fait une vidéo sur YouTube comme quoi il méritait pas d'avoir, je sais plus, genre 32 de vitesse. Ouais, et il a fait une vidéo où il courait
qui,
super
alors,
vite.
C'est drôle, ça.
Je sais plus, je crois que c'était en Écosse ou en Irlande ou je sais
plus.
Non mais c'est marrant.
Ça fait donc les deux mondes se confondent et se confondent peut-être.
Mais
peut-être
entre joueurs,
dans la tête
moi, je suis
des
pas
des
du tout un spécialiste de ça, mais je vois bien des fois entre joueurs, les mecs se balancent sur Twitter, les trucs. Bah t'as vu, t'as 88 ou 80 ou oh, ça, c'est très drôle.
Mais voilà, les vrais footballeurs sont des humains avec quelques failles. Le mot de la fin sur Neymar.
Ce qui arrive sur Neymar, moi je trouve que ça renforce aussi le caractère totalement exceptionnel de ce que réalisent Messi et Ronaldo. Parce que d'avoir été aussi haut, si longtemps et encore aujourd'hui, alors que d'autres se sont écroulés, c'est juste extraordinaire.
Effectivement, c'est extraordinaire et donc on
et
peut
Ronaldo,
conclure.
Et encore, je dis pas un niveau au-dessus, hein, c'est pas ça. Mais Messi, c'est le football. Messi, c'est du don
oui,
absolu.
Oui, alors
Ronaldo,
là, en plus,
c'est du don, évidemment.
Il y a le côté travailleur acharné.
Mais, chez Ronaldo, il y a ce petit truc supplémentaire qui est du don, évidemment. Rappelez-vous ce qu'il faisait à Manchester United à ses débuts. Mais à côté de ça, il y a ce plus qui est dans le travail.
Ronaldo, Messi, un don pour le football. Nabil Djellit, un don pour les mots. L'argent ne fait pas le bonheur. Je vous défie tout de même d'aller dire ça aux supporters de Newcastle, mon cher Nabil.
Laurent Robert has plucked something out of nowhere.
Solano, brilliant!
That's a super goal by Alan Shearer.
Debut goal, Papiss Cissé. Hatem Ben Arfa on his first start for Newcastle.
Ginola, and it's Ginola! What can you say about that?
Quand vous pensez à Newcastle, Hervé Penaud, vous êtes vraiment dissipé pendant les sons. Vous pensez à Brian Ferry et Roxy Music, si vous aimez la bonne musique. Vous pensez à ces images hein, d'anglaises et d'anglais peu vêtus à la sortie des pubs, malgré le froid.
Quel cliché,
c'est le cliché associé à la ville de Newcastle.
Mais qui n'est pas tout à fait faux.
Mais vous pouvez penser aussi au football, au Magpies, à l'ambiance magnifique de St James Park, aux bandes blanches et noires du maillot de Newcastle United, ancienne écurie d'Alan Shearer, David Ginola, Laurent Robert, Habib Bey, Gary Speed, Dembaba, Gabriel Aubertin, Sylvain Marvaux et autres joueurs inoubliables. Newcastle, équipe toujours sympathique, parfois pas trop mal placée, jamais gagnante. Et bien Newcastle est devenu il y a quelques jours, en tout cas c'est ce qu'on a lu, le club le plus riche du monde. Passage sous pavillon saoudien, rachat par un fonds souverain et derrière ce rachat, l'ombre de Mohamed Ben Salman, prince héritier du royaume. Le club de Newcastle, Bruno Constant, vous qui suivez le football anglais, va-t-il être transfiguré par des propriétaires venus du Golfe à l'image de ce qui s'était passé pour Manchester City et les Émiratis fin des années 2000 ou pour le PSG et le Qatar en 2011?
C'est le rêve aujourd'hui de tous les supporters de Newcastle, mais c'est un rêve qui est... Comment expliquer ? Qui est controversé parce que on ne peut pas faire abstraction de tout ce qui entoure l'Arabie Saoudite. On ne peut pas faire abstraction du fait que c'est un long feuilleton de 18 mois qui a pris fin, que ce projet de rachat qui avait déjà été lancé l'année dernière avait été retoqué. Il s'était retiré, mais aussi parce que la Première Ligue avait émis des doutes. Et à l'époque, on parlait du gouvernement britannique qui s'était immiscé dans le débat. Là, on a l'impression que c'est un rétropédalage à la fois de la Première Ligue, qui a validé ce rachat sans donner vraiment beaucoup d'explications, et à la fois du gouvernement britannique qui, on l'entend à droite, à gauche, a subi aussi la pression de l'Arabie Saoudite sur les conséquences que pourrait avoir un refus sur les relations entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni et l'Arabie Saoudite, et
bon,
notamment commerciaux.
Ça nous rassure sur le monde du football. On sent que le jeu est vraiment au centre de tout avec ce rachat. Bon, là, je fais un peu de la démagogie. En France, on n'a pas boudé son plaisir avec l'arrivée des Qatariens pour transfigurer le PSG. Manchester City aujourd'hui est salué comme un grand club. Donc, est-ce que Newcastle peut subir
c'est un débat qui
destin,
qui m'étonne quand même, pour le moins. Alors, c'est-à-dire que le gouvernement britannique a le droit de dealer avec l'Arabie Saoudite, mais un club de football n'aurait pas le droit de le faire avec l'Arabie Saoudite. Mais pourquoi? Il n'y a aucune logique. Je veux dire, à partir du moment où vous avez des intérêts dans des pays comme ça, soit vous estimez qu'il ne faut pas se mettre mouillé avec ce type de pays, c'est un choix, et pourquoi pas? Non, mais, mais dans ces cas-là.
Et très vite, Amnesty International, par exemple, a parlé de la situation des droits de l'homme.
Mais, donc,
très
c'est le boulot d'Amnesty International, je comprends tout à fait. De la même manière qu'Amnesty International parle quand vous avez le gouvernement français qui part en Arabie Saoudite vendre des rafales ou je sais pas trop quoi, et ben ça, heureusement, c'est leur boulot. Soit vous estimez que c'est normal de le faire, soit vous estimez que c'est pas normal, mais on peut pas accepter qu'un État ait des contrats avec un pays et d'un autre côté, accepte pas que dans son propre pays, par exemple, un club de football puisse être en affaire avec l'Arabie Saoudite.
En tant qu'amoureux du ballon,
il y a d'ailleurs aucune règle qui stipule, effectivement, je suis d'accord avec toi Hervé, il y a aucune règle qui stipule que ça, on doit prendre en compte ce qui se passe dans le pays qui va être le propriétaire.
Non, mais
on ne peut pas fermer les yeux non plus. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé avec l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas possible.
L'Arabie Saoudite et...
Il y a une position morale.
L'assassinat du journaliste Khashoggi, qui forcément a été.
Bien sûr, c'est le nœud d'ailleurs.
Très mal
mais
perçu.
Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très mal perçus. Oui, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui, par exemple, ceux qui nous écoutent en Afrique, qui considèrent aussi que la position de la France dans ses interventions militaires en Afrique a autant choqué que ce qui peut se passer en Arabie Saoudite, voire même plus. Donc vous avez, après, ça dépend de quel point de vue moral vous regardez et d'où vous placez.
Alors, est-ce que quand même comment on le place dans la grande histoire, on va dire, du football ou l'histoire récente du football, ce rachat? Javier Tebas en Espagne dénonce les clubs États dotés de moyens au-delà de toute la concurrence.
C'est un changement d'échelle qui continue, quoi. Je veux dire, les mécènes, les propriétaires
pour le meilleur
les meilleurs clubs, il y en aura de moins en moins.
Non, mais est-ce que c'est un changement pour le meilleur du jeu du ballon du foot?
Par exemple, je vais vous poser une question. Les propriétaires de Manchester City, donc des Émiratis, on est bien d'accord. Bon, est-ce qu'on les voit? Pas plus que ça. En revanche, qu'est-ce qu'on retient? C'est Guardiola et le jeu produit par Manchester City. Est-ce que quelqu'un s'élève contre cette évolution-là du football produit par...
Non, mais du côté du Qatar,
des choses différentes. Il y a d'un côté le football, et je suis entièrement d'accord avec toi.
Non, mais si je dois...
Il y a de l'autre, il y a le fait que...
Terre à terre.
D'avoir la création de ces clubs États, manière de se racheter une image par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. Et ça, on peut pas le passer sous silence, et ça a été le cas dès le début aussi avec Roman Abramovich, qui était fortune russe et avec
Chelsea,
un passé, des histoires qui le poursuivaient. C'était le cas avec le Qatar et le PSG, c'était le cas avec City et Abu Dhabi United. C'est normal. Après, effectivement, il y a la partie football. Et aujourd'hui, ce qui est inquiétant et ce qui est problématique en Angleterre, c'est qu'on demande presque aux supporters de Newcastle de donner un jugement, d'apporter un jugement.
Terminé, quasiment.
En gros, est-ce qu'il faut rendre sa carte de supporter à Newcastle parce que l'image de son club va être ternie, etc.
Entaché, entre guillemets.
Et ça, c'est compliqué parce qu'on pose la question sur
l'aspect politique.
Et jusqu'où notre amour pour un club doit aller? Est-ce qu'on doit fermer les yeux sur certaines choses ou seulement la partie football?
Je parle aussi de l'économie, ce qui m'ennuie, c'est que le PSG a déréglé quelque part l'économie.
Là, je suis d'accord. Moi, je pense que ça, c'est un vrai souci. Que le Qatar dirige un club, par exemple, c'est un vrai souci. Parce qu'évidemment, vous combattez pas à armes égales. Prenons le championnat de France. Vous avez des clubs comme Lyon qui ont travaillé sur le long terme de manière intelligente en construisant un stade, mais tout s'écroule. Parce que le jour où vous avez un État qui arrive, qui dit, mais moi, je peux prendre 3 joueurs à 40, 50 millions d'euros par an, vous faites comment?
C'est pipé.
Donc, les dés sont pipés. Donc ça, je pense qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait une forme de régulation, d'autorégulation du football.
Il y a le fair-play financier, je sais pas si t'es au courant.
Oui, mais enfin, t'as vu, il a déjà volé en éclats. Mais le Bayern Munich, par exemple, est l'exemple d'un club qui a bien travaillé, qui veut pas justement
mais qui sera peut-être en danger à terme par rapport à ce genre de
club.
Comme la Liga a été, disons-le, quasiment, en tout cas, elle est sur une séquence difficile, pulvérisée. Mais les meilleurs joueurs de la Liga, ils ont quitté la Liga pour le Paris Saint-Germain ou tout simplement Ramos, il est au PSG, Messi, il est au PSG,
Ronaldo.
Neymar, il est au PSG.
À terme, vous avez une concurrence qui est déloyale.
Ce qui était inimaginable il y a quelques saisons.
Allez, le mot de la fin, Bruno.
C'est compliqué de résumer en quelques mots ce qui se passe. Maintenant,
tu reviendras.
Non, mais c'est dur. Il y a l'exemple de Manchester City et du PSG. La seule moralité dans tout ça, c'est que l'argent, heureusement, n'achète pas une Ligue des Champions. Parce que 8 ans ou 14 ans après leur achat de ces deux clubs-là, ils n'ont toujours pas gagné la Ligue des Champions. Donc il reste encore un peu de football.
Il y a une morale sportive.
C'était très bien de lui avoir donné la dernière.
On se remémore cette vidéo des joueurs de l'équipe de France dans un avion et Antoine Griezmann qui dit à Kylian Mbappé, je t'ai acheté sur Football Manager à Newcastle. Voilà, tu vas signer à Newcastle, et Kylian Mbappé qui dit que il fait froid là-bas.
La prophétie.
Quand le jeu vidéo annonce le réel, et la transition est toute trouvée vers notre dernier sujet.
Bonjour à tous, ici Jean-Luc Reichmann. Nous avons là ce qui devrait être un match intéressant entre la France et le Brésil.
Eh bien voyons ce qui va résulter de ce coup de pied arrêté.
C'était chaud, chaud, chaud.
Et il franchit la ligne et va au fond des filets.
Quoi ?
Mais c'est incroyable !
Ouais, c'est la plus entreprenante des deux équipes qui mène au score et c'est normal.
Oh là 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 !
Ben Arfa !
Quel arrêt spectaculaire !
Eh, hey, ce n'est pas le drapeau de corner qu'il faut viser.
Songtu, la chanson du groupe Blur, bande originale de FIFA 98. Les jeux vidéo de football, leur musique, leurs commentaires, toujours très naturels, accompagnent depuis près de 30 ans les amoureux du foot dans leur passion. On joue avec ses potes, avec son club, on va au stade, on regarde le foot à la télé, on collectionne des cartes, éventuellement des autocollants Panini. Mais pour les jeunes comme les moins jeunes, désormais, il y a aussi la manette, le joystick et la sortie du nouveau FIFA, qui est un événement aussi incontournable qu'une finale de Ligue des Champions. Pour des gens comme vous, rebonjour, rebonsoir Arsène Froune. Vous êtes donc, je le rappelle, présentateur de la chaîne Twitch du Paris Saint-Germain, ambassadeur de la section e-sport du club parisien également, et champion du monde des youtubeurs FIFA en 2018. Vous l'avez trouvé comment le nouveau FIFA qui est sorti il y a quelques jours, à peine, FIFA 22?
Comme tous les ans, forcément, on attend à chaque fois la date précise du lancement. Moi, j'ai la chance de l'avoir un petit peu en avance vu que je suis dans les influenceurs du jeu. Et franchement, je suis content parce qu'ils ont enlevé un petit peu ce qui marchait moins bien les autres années. Mais il y a encore quelques petits aspects qu'il faut peaufiner comme tous les ans. On attend quelques mises à jour. Il y a beaucoup de frappes de loin qui rentrent cette année. Forcément, c'est quelque chose qui est pas trop plaisant quand c'est ça, quand t'es devant les cages, t'arrives pas à marquer, tu mets que des frappes de loin, il y a que ça qui rentre.
Vous êtes consulté, vous, les influenceurs, ceux les plus grands spécialistes,
oui,
du jeu?
Oui, oui, ils nous demandent, on est beaucoup, ouais, justement consultés, que ce soit nous les Français, les Anglais, tous les pays qui jouent à FIFA, pour essayer d'améliorer le jeu, de faire du feedback à chaque fois.
Si je peux faire un parallèle, c'est qu'au moins dans l'e-sport, ils ont compris que l'importance des joueurs, c'est qu'on leur demande leur avis, alors que dans le football, nous, notre football, on demande jamais l'avis aux joueurs sur l'amélioration du jeu.
Ouais.
Alors, juste préciser les termes jeux vidéo, e-sport, c'est le jeu vidéo, c'est la matière première, si je puis dire, et l'e-sport, c'est le fait de faire des compétitions de jeux vidéo.
C'est le sport électronique, exactement, donc voilà. C'est faire des compétitions. Il y a des pro-gamers maintenant, des gens qui sont vraiment rémunérés, qui ont des contrats professionnels dans des clubs, dans des structures e-sport, parce qu'il n'y a pas que les clubs, il y a des clubs comme le PSG qui ont une équipe e-sport. T'as des structures qui se sont créées comme Vitality, qui a eu une grosse levée de fonds, notamment en France. T'as d'autres équipes françaises comme celle-ci qui sont également très actifs dans l'e-sport.
Vous êtes un athlète comme un autre? Les gamers, les, ouais, les joueurs,
physique,
vous êtes
déjà,
des athlètes,
je m'attendais pas à
vous êtes des athlètes
phénomène.
Comme les autres. Jouer à un jeu vidéo, c'est la même chose que pratiquer un sport?
C'est différent, parce qu'il n'y a pas forcément l'aspect physique qui va compter, même si c'est important d'être en bonne forme physique pour l'aspect mental également, parce que c'est très mental comme jeu. Mais forcément, t'as des gens qui seront pas forcément dans la meilleure condition physique optimale comme des grands sportifs, mais qui seront quand même très bons à FIFA. Après, c'est vraiment un travail mental et beaucoup d'entraînement avec la manette ou le clavier souris pour certains sur d'autres jeux. Donc forcément, il y a de l'entraînement, tout comme il y en a dans le football.
Section e-sport du PSG, ça veut dire que le PSG n'a pas qu'une équipe de foot ou des équipes de foot ou une équipe de handball, elle a également une équipe de gamers qui ne joue pas qu'à des jeux de football, parce que dans le monde de l'e-sport, le football n'est pas hégémonique comme dans le monde du sport, du vrai sport, entre guillemets.
Exactement. Alors le PSG, c'est une marque qui s'est développée énormément en Europe, notamment via les Qataris. Et là où on aimerait justement gravir des échelons dans la communauté parisienne, c'est de se faire connaître encore plus en Asie. Et là-bas, en Asie, le marché e-sport est extrêmement regardé. Donc forcément, le PSG s'est basé un petit peu sur les écuries qu'il y a en Asie pour faire des partenariats majeurs avec des équipes là-bas. Et on s'est associé avec des équipes sur les jeux League of Legends, Dota, avec les meilleures équipes de là-bas, pour justement montrer que le Paris Saint-Germain également est présent en Asie, pour montrer que le Paris Saint-Germain, ça gagne même en Asie, quoi.
C'est donc qu'il y a un public, un marché, c'est que l'e-sport, c'est un spectacle, hein, via Twitch, donc la plateforme d'Amazon, ça appartient à Amazon.
Exactement, c'est souvent regardé sur Amazon, ces compétitions sur Twitch, qui est la plateforme qui grandit le plus pour les lives, pour les jeux vidéo, pour un peu de tout également. Le PSG, maintenant, on est en live sur Twitch pour commenter les matchs, par exemple. Et en plus de ça, donc, comme tu l'as dit, c'est sur d'autres jeux, c'est énormément regardé. Il y a du public, il y a des stades entiers qui sont remplis justement pour des compétitions. Et il y a des cash prizes hallucinants. Dota, par exemple, le plus gros cash prize.
Donc des récompenses financières.
35 millions d'euros répartis pour 5 joueurs pour l'équipe qui gagne.
Ah, Hervé,
je vais m'y mettre. Ah, ça y est.
Il va finir au premier magasin d'ici les Molino qui va trouver son
prix. Nous, Hervé, nous, on joue à cash-cash. C'était pas aussi bien rémunéré.
Même pas 35 euros.
Ce qui est intéressant, je saute sur l'occasion, c'est-à-dire que vous avez autour de vous des gens un peu plus âgés, hein, je le dis
surtout
poliment,
surtout moi non, on a
je,
peu m'inc- pas
je, m'in- je m'inclus, vous avez 26 ans, 25 ans, Arsène, nous sommes un peu plus âgés et en fait j'ai l'impression qu'on découvre un monde qu'on ne connaissait
moi,
presque.
Moi je connais pas, moi. Vraiment,
une incarnation, un pan de la culture foot dont on soupçonnait l'existence mais dont on ne mesurait pas forcément l'ampleur.
Enfin, Nabil et moi, alors peut-être pas Hervé.
On
a tout joué, je pense que Nabil. On a joué aux jeux vidéo de foot, comme tu disais.
Mais non, mais moi ça me parle. Moi j'ai même une expérience professionnelle dans le monde du jeu vidéo. J'étais animateur sur une chaîne du Cap que tu dois certainement connaître qui s'appelle Game One.
Oui, très bien.
Voilà. Donc voilà, je faisais une émission à l'époque qui s'appelait le Level One et donc j'ai vu le développement, l'évolution et la montée en puissance. À l'époque, on pouvait pas jouer en ligne comme aujourd'hui, mais le jeu FIFA notamment, ça suscitait un engouement extraordinaire avec des compétitions où on se déplaçait pour commenter les matchs avec des gamers et tout ça. Donc c'est un univers que je connais déjà.
On va remonter aux sources du jeu vidéo de football, début des années 90, avec un chef-d'œuvre du genre dont j'ai appris l'existence il y a 2 ou 3 grosses heures, à savoir Sensible Soccer, le jeu préféré de David Finzel. Donc là, on est transporté dans un magnifique univers de graphisme, de réalisme ébouriffant. Arsène, vous êtes né en quoi ?
96.
Donc en plein moment de développement et de balbutiement pour les jeux vidéo de football. C'est quoi ? C'est les années 90.
Moi, j'ai commencé plus sur FIFA 2004, mais je sais qu'avant, bien sûr, il y avait du ISS qui était très très joué.
Kickoff aussi.
Alors ISS, Kickoff, c'est intéressant parce que c'est l'ancêtre de Pro Evolution Soccer qui désormais PES. N'existe plus. S'appelle eFootball. Et là, c'est peut-être là qu'on bascule vers la fin des années 90, vers quelque chose qui doit vraiment imiter une genre de simulation de ce qui se passe vraiment dans les vrais matchs de football.
Ouais, on part sur FIFA justement, FIFA qui a été très développé justement, c'était le jeu référence. Après, on a une petite bascule sur PES qui a pris l'ascendant.
Mais les ont tués grâce aux licences.
Ouais,
Pro Evolution Soccer 2001 et de 2001, on va dire, à maintenant, FIFA, PES sont vraiment les matrices du jeu vidéo.
Avant, c'était PES pendant un bon moment.
Ouais, PES, surtout vers 2004, 2005, 2006.
Mais FIFA avec les licences.
La bascule, c'est FIFA. Alors,
les licences.
Pour moi, le premier FIFA que j'ai eu, c'est FIFA 94. Et c'était avec la Coupe du Monde. Et en termes de graphisme, il y a une bascule totale. Et de réalisme. Parce que c'est le réalisme qui nous a fait donner envie de jouer au jeu. Et effectivement, quand tu vois l'évolution aujourd'hui, t'as l'impression que c'est des images d'un vrai match de foot, en fait, de plus en plus.
Mes grands-parents, ils confondent, ils pensent que c'est un vrai match. Ouais. Ils me demandent c'est quoi le match
à la télé.
Et après, je leur dis allez vous coucher.
Ce qui est important de dire également, c'est que FIFA et notamment les jeux vidéo développent la culture et les connaissances.
Alors exactement, je voulais vous amener sur ce terrain-là sans mauvais jeu de mots, c'est-à-dire que on parle de réalisme, mais l'idée que le jeu vidéo veut se rapprocher de la réalité, et justement ce rapprochement entre virtuel et réel permet finalement d'apprendre le vrai football
ça élargit ta base de données, ça te permet de découvrir tout bêtement des joueurs et leurs spécificités. C'était un peu comme les capitales.
C'est un vrai souci aussi. C'est-à-dire que maintenant il y a beaucoup de gens qui pensent connaître le football à travers les jeux vidéo. Entraîneur à la place d'un entraîneur, pensent connaître tous les joueurs mieux que les entraîneurs. Et ça revient à la conférence de presse de Jamel Belmadi la semaine dernière, qui à un moment a parlé de ça, a dit vous savez moi les trucs de jeux vidéo
football
je connais
manager.
Rien.
Mais c'est
football
manager.
Non il dit les gens qui sont sur un canapé, il dit les choses est trouées en train
avec
de manger
un sandwich cachère.
Avec un sandwich cachère et qui
cachère
et qui regarde
Arsène Faune, vous êtes obligé de
riposter.
Vous, clairement.
Chaussettes trouées ou pas?
Je répète ce que dit.
Né en 96, le football, vous apprenez à le jouer, vous apprenez à le regarder, mais vous apprenez à le jouer aussi via la manette, via la console. Ça fait complètement partie de votre culture foot.
Exactement. Après, je fais beaucoup de football depuis que je suis tout petit. J'étais en club de mes 7 ans jusqu'à mes 18 ans en club normal. Et forcément, ça aide, ça apprend de nouvelles connaissances. Mais il n'y a pas que le football. Hein. D'autres jeux m'ont également aidé à grandir, d'apprendre plein de choses. Il y a plein de jeux qui sont pédagogiques comme ceux-là.
Bien sûr.
Mais forcément, quand on fait par exemple une carrière, tu apprends le fait de gérer un budget, de faire des transferts, tu apprends plein de choses.
On apprend le...
Non, mais c'est intéressant.
On apprend aussi l'existence de pépites hein, sur Football Manager. Verratti,
Une des premières pépites sur Foot Manager, c'était Fernandinho.
Non, mais pour rebondir sur ce que dit Nabil, c'est intéressant sur la connaissance. Il y a un parallèle qui est fait avec la musique et avec YouTube. Ouais. À l'époque, dans les années 70-80, pour écouter de la musique, pour découvrir de la musique, c'était hyper compliqué. Il fallait se passer les cassettes audio ou les vinyles. Et dans le foot, c'était pareil. Pour connaître des joueurs de l'étranger, il fallait lire l'équipe ou France Football. C'était hyper compliqué d'accéder au football. Aujourd'hui, vous avez ces données de tous les joueurs de tous les clubs dans le monde.
C'est grâce au jeu Maradona, c'est grâce au jeu très différent.
Vous travaillez à Arsène Froome pour un club de football, vous connaissez, vous avez eu l'occasion de fréquenter les joueurs de ce club, Mbappé, Neymar, entre autres. Le jeu vidéo, on en parlait tout à l'heure, occupe une place importante dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont joueurs de foot dans la vraie vie et joueurs de foot sur les écrans. C'est très important dans la culture.
Ça varie un petit peu. Il y a des joueurs qui m'ont dit que justement, parfois, ils jouaient pas du tout.
Ah,
ils
n'avaient
pas le temps. Ils avaient leur famille, comme Ander Herrera, par exemple, pour le citer. Ou Sarabia, qui me dit qu'il jouait plus avant, mais que maintenant, il avait un petit peu lâché. Mais c'est sûr qu'il y a des joueurs qui adorent y jouer. Je pense à Paredes, je pense à Juan Bernat, je pense à Mbappé, qui adore jouer à FIFA, Kurzawa également, qui joue presque
le meilleur selon vous, vous avez eu l'occasion d'en affronter quelques-uns.
Les meilleurs au PSG, je dirais Bernat et Kurzawa. Je pense que c'est les meilleurs. Mbappé, pas très loin derrière, qui est pas mal aussi. Mais Bernat avait un niveau presque professionnel.
Ah, ouais.
Il y en a un qui l'a déjà battu.
Bah, tu me diras, il joue plus au foot. C'est normal. Il peut aussi.
Kurzawa, ils vont avoir le temps de pratiquer avec
les arrières gauches.
On est tout de suite mauvaise langue.
Particulièrement bon. Donc, on parlait tout à l'heure de. On parlait tout à l'heure de.
Hakimi, arrière droit, pas mal aussi.
Ah, ouais, c'est. Bah voilà, les latéraux.
Généralement, il faut être latéral.
On parlait tout à l'heure de l'importance qu'ils accordent à leurs notes, à leurs caractéristiques dans les jeux vidéo. Maintenant, dans la carrière d'un footballeur, ça. C'est une donnée dans l'image. L'image des footballeurs, dans la manière de gérer leur image, c'est une donnée à prendre en compte. Votre existence via des avatars numériques dans les jeux vidéo.
Ah, quand t'es footballeur, t'attends de savoir un petit peu ta note et forcément parfois tu fais une bonne saison et tu te dis que l'éditeur n'a pas forcément vu que t'as fait une bonne saison à ce point-là, que t'as pas été augmenté, t'es un petit peu déçu et t'attends une meilleure note. Mais c'est sûr que ça caractérise un petit peu leur valeur. Et après, c'est pas tout le temps correct. On sait que parfois, il y a des joueurs qui méritent plus, d'autres qui méritent un peu moins. Et
donc,
voilà.
Faut pas le dire trop fort, mais la note FIFA, c'est un petit peu remplacé la note dans le journal L'Équipe ou la note France Football.
La note de l'année, on va dire. Ouais. Ça leur fait une note annuelle.
Est-ce qu'on est d'accord autour de la table, sachant qu'on a écrit pour les deux publications.
Oui, c'est une note annuelle,
Non, non, mais
ils aiment encore les notes de L'Équipe. Hein. Ça, je peux vous le dire.
Ils aiment encore ça. Est-ce qu'à terme, bon alors là, il reste pas beaucoup de temps pour répondre à cette question hyper large, mais est-ce qu'à terme, l'intérêt des jeunes générations pour le jeu vidéo de football ne va pas être plus fort, ne risque pas d'être plus fort que pour le foot à la télé ou le foot en bas, chez soi avec les potes.
Je pense que pour d'autres jeux, ça peut être limite aussi fort que pour le foot. Par exemple, pour du Dota ou League of Legends dans d'autres pays, comme en Asie, où c'est hyper développé. Après, en France, en Europe, on est tellement... basé sur le football, on a une culture foot depuis le plus jeune âge, on joue au foot quand on est jeune,
bien sûr.
Je pense pas que ça prendra le dessus.
League of Legends, c'est quoi? C'est pas du foot alors?
Non, c'est des personnages en 5 contre 5, donc t'as 5 personnes contre 5 personnes,
et
faut essayer d'aller dans la base ennemie, détruire les trucs.
D'accord.
Voilà. Bon, tant que ça reste du virtuel, que ça prenne pas le pas.
Donc pour l'instant, pas de concurrence, on est d'accord, on continuera à regarder des...
Je sais pas.
Des vraies personnes enchantées en
catégorie.
Ouais, je suis pas aussi catégorique. Je sais pas. Il y a un désintérêt, il faut l'accepter. Il y a un désintérêt des jeunes pour le football.
C'est pas grave, je vais avoir une Coupe du Monde tous les deux ans.
Est-ce que c'est un effet de mode avec les jeux vidéo? Est-ce que ça passera? Est-ce que ça reviendra? Je sais pas.
En tout cas, je vous conseille l'écoute d'un podcast de RFI hein, qu'on avait publié à l'été 2020 sur l'e-sport et les conséquences du confinement, notamment sur le développement de l'e-sport. Match retour, ça s'appelle. Vous tapez ça sur Internet, vous cherchez sur le site Internet. Merci Arsène Froome d'avoir
merci
été avec
vous.
Nous
merci.
Pour parler jeux vidéo. Merci Bruno Constant, Nabil Djellit, Hervé Penaud.
Un plaisir.
Merci Laurent Salano, David Finzel. Radio Foot revient demain avec Annie aux commandes. Très bonne soirée sur RFI.
cool, cool, cool.